Olivier Beauregard est avec nous pour nous parler sport, comme c'est notre bonne habitude du jeudi. Ça revêt un caractère particulier parce que, évidemment, on est à quelques heures à peine du Super Bowl. Bonjour, Olivier.
Salut, ça commence à sentir les ailes de poulet.
Oh oui, monsieur. Alors, comment tu penses que ça s'aligne? Est-ce que tu penses que les Chiefs vont écrire l'histoire?
Bien, c'est une très bonne question. Puis si c'est le cas, bien, dans l'histoire des livres de la NFL, ça va être un nouveau chapitre parce que les Chiefs de Kansas City, c'est une dynastie au courant des dernières années. On en a parlé la semaine dernière, mais c'est une équipe qui, à chaque année, peut espérer remporter le Super Bowl. C'est tellement une équipe de football qui fait mentir tous les experts parce que cette année, on les voyait pas là du tout. Puis là, ben, c'est encore eux qui vont affronter les Eagles de Philadelphie au Super Bowl. Et ils sont en quête d'un troisième titre consécutif. Personne ne s'attendait à ça, comme je le mentionnais, parce que la saison des Chiefs est en dents de scie. Mais c'est sûr que quand tu as un Pat Mahomes, quand tu as Andy Reid comme entraîneur-chef, ton équipe part déjà avec un avantage. Puis tu peux espérer connaître un certain succès. Maintenant, c'est de voir. Est-ce que ça, l'histoire peut se répéter encore une fois? Ça va être un très gros match de football. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont deux formations qui se sont affrontées au Super Bowl il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années à peine. C'est comme la prise 2 de tout ça. Les Chiefs avaient sorti vainqueurs. Mais ça reste que ça va être un match où je pense que tout peut se jouer par rapport à la performance des corps arrière, comme c'est souvent le cas. Parce que d'un côté, tu as Pat Mahomes, qui est probablement l'un des corps arrière les plus mobiles, l'un des corps arrière les plus complets de la NFL. Et de l'autre côté, tu as un Jalen Hurts, qui est un autre très bon corps arrière, mais qui a peut-être des lacunes en termes de lancer le ballon. Alors, on verra si le jeu aérien des Eagles va être capable de sortir quelques tours de son chapeau pour être capable de battre la défensive des Chiefs. Je peux vous dire une chose, Shaquan Barkley, tout le monde le connaît, tout le monde sait c'est qui à Philadelphie, c'est le porteur de ballon par excellence du circuit. C'est un peu le gars qui nous a fait oublier la blessure de McCaffrey cette année. Ben, Shaquan Barkley, là, c'est sûr que si je suis les Chiefs de Kansas City, je m'attends à ce que ce gars-là court avec le ballon. Soyez-en certains, là, Andy Reid va avoir préparé un plan de match spécialement pour lui. Mais ça reste que, de tout et partout, je pense qu'on est en droit de s'attendre à un très bon spectacle parce que les Chiefs n'ont pas connu de grands matchs. Ils ont connu un grand quatrième quart tout au long de la saison, mais ça n'a jamais été de grands matchs. Et du côté des Eagles, ben, je pense que ça a été une saison qui est un peu été en cul de poisson. Puis au final, on est allé sur une ligne un petit peu plus constante. Alors, bon match de football. Qui va sortir vainqueur? Est-ce que ce sera Jalen Hurts et les Eagles ou ce sera Pat Mahomes et les Chiefs? Bien, ce sera à suivre, mais dans le cas des Chiefs, ça serait boucler la boucle d'une très, très belle façon parce que j'ai comme l'impression que l'an prochain, il va y avoir énormément de changements dans cet alignement-là. Alors, si les Chiefs sont capables de remporter un troisième titre consécutif, ça serait tout un exploit en soi, ça c'est sûr et certain.
Dans un contexte très particulier où Donald Trump sera probablement de l'assistance, enfin, c'est ce qu'on en a dit cette semaine. Donc, ça prend un caractère particulier. On parle maintenant, justement, on y vient, puisqu'on en parle, les hymnes nationaux, ça se passe moyen bien, et ça, dans à peu près tout genre de sport confondu, là.
Ouais, puis où ça nous a retenu un petit peu là, c'est dans la Ligue nationale au courant des derniers jours. Puis ça s'est passé dans notre cour ici à Ottawa, dans le cadre d'un match entre le Wild du Minnesota et les Sénateurs. Écoutez, c'est tout juste après que Donald Trump a décidé de mettre son plan à jour concernant cette fameuse taxe aux frontières qui a fait parler. Eh ben, dans l'hymne national, lorsqu'on a interprété l'hymne national américain à Ottawa il y a une semaine de ça, les partisans ont décidé de commencer à huer pendant l'interprétation de l'hymne national. Là, il y en a qui vont dire c'est anodin, c'est rien, ça n'a pas de répercussion. Ben, détrompez-vous parce que ça le fait non seulement le tour du Canada, mais ça a fait le tour des États-Unis, ça a fait le tour du monde. Les gens ont parlé de cette nouvelle crise entre le Canada et les États-Unis et à quel point ça avait eu un impact, tellement qu'un match à Nashville, pas plus tard qu'il y a quelques jours à peine, dès que l'hymne national a commencé, les partisans ont commencé à huer l'hymne national canadien. Oui. Alors, on se lance la balle entre les différents pays. Et ce qui est intéressant, c'est que la politique a réagi à ça. Il y a d'ailleurs la ministre Isabelle Charest qui a décidé de parler aux gens puis de dire « Faites attention, là, on peut pas boycotter les décisions prises par Donald Trump par rapport à ce qu'on fait dans le sport. Il faut garder un minimum de respect. » Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, là, combien de fois dans l'histoire, c'est là, le sport a engendré un changement politique important. Puis là, je vais prendre des exemples qui sont peut-être pas les meilleurs. Mais rappelez-vous de Mohamed Ali, ce qui a changé, lui, dans le combat pour justement les Noirs, pour faire connaître, reconnaître les droits des Noirs. Écoute, c'est des combats, là, des combats de boxe, mais là-dessus, il y avait un message fort, il y avait un message politique clair. Il y a tellement eu d'événements sportifs dans l'histoire qui ont marqué le monde politique que des fois, quand le sport s'en mêle, l'impact est un petit peu plus grand parce que ça sort de l'imaginaire des gens, si tu veux, c'est là. Donc, je suis pas en train de te dire que là, à cause de l'hymne national, la taxe, elle n'existera plus. Là. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais je suis en train de te dire qu'en quelque part, il y avait quelque chose lors de l'hymne national à Ottawa qui était plus grand que le sport cette journée-là, puis c'était le mécontentement d'une nation. Puis on le savait que ça allait faire résonner, puis peut-être shaker les colonnes là, du Capitole à Washington. Puis c'est un peu ça qu'on a voulu faire. Mais là, de là à dire du côté de la politique québécoise, parce que là, rappelle-toi, là, au courant des derniers jours, tout le monde des instances politiques nous invite à boycotter les produits américains, mais faut pas faire trop de bruit. Tu sais, faut pas le faire dans des événements publics. Et ça, c'est là où je me garde une petite gêne. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça à tous les matchs, mais est-ce qu'il faut bannir des gestes comme ça pour lancer des messages clairs? Moi, je suis pas sûr. J'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil. J'ai trouvé que c'était aussi le mécontentement d'un peuple qui l'envoyait vers un autre peuple. Oui. Au final, je pense pas il faut pas calmer la situation. Là, c'est pas une situation qui est exagérée. Et quand j'ai vu les instances politiques réagir à ça, puis dire faut faire attention. Je te dis pas si ça durait pendant un an, mais de le faire à une reprise pour lancer un message clair, moi je vois rien de mal à ça.
OK, t'es pas contre ça, parce que moi, en fait, je m'interrogeais un petit peu sur la pertinence des hymnes nationaux au niveau du hockey, parce que c'est pas toujours nécessairement des Canadiens qui jouent dans l'équipe, c'est pas toujours nécessairement des Américains qui jouent dans les équipes non plus. Donc, dans des compétitions mondiales, comme par exemple les championnats mondiaux de ski en ce moment, oui, l'hymne national, pour les matchs, ça m'a amené une petite piste de réflexion. Enfin, on pourra en discuter longtemps, Olivier.
Je me permets de rajouter quelque chose là-dessus, c'est là, parce que je trouve ça intéressant. C'est de la vieille mentalité, puis c'est de la vieille école. Hein. Puis le hockey, c'est plate, mais c'est un sport qui est de très, très vieille mentalité. Oui. Je ne te dis pas que c'est pour le bon. Là. Je te dis que, tu sais, éventuellement, il faudrait revoir notre formule. Je pense dans le même sens que toi, parce qu'on reconnaît, dans le fond, les deux pays dans lesquels le marché évolue, mais on ne reconnaît pas tous les pays qui sont impliqués dans ce sport-là.
C'est ça.
Alors non, il y a peut-être un côté pertinence aussi à voir au niveau de l'interprétation des hymnes nationaux pendant les matchs de hockey.
Définitivement. Et parlons hockey, justement, Canadien de Montréal.
Ben, disons que du côté du Canadien, il y a quelques semaines à peine, les gens étaient tout feu, tout flamme. Le Canadien était parti pour la gloire. On se voyait en série, on se voyait causer une surprise. C'est vrai que le Canadien a connu une bonne séquence. Là. Ça a été un petit peu plus difficile récemment. C'est comme si on était sorti justement de cette bulle-là, de ce rêve-là de connaître autant de succès après une saison qui avait démarré vraiment difficilement. Et là, ben, on revient un peu sur terre à Montréal et on commence à parler de transactions. C'est toujours comme ça dans le marché montréalais. C'est un marché chaud. Oui. À partir du moment où l'équipe connaît des performances en demi-teinte, on suggère des transactions pour améliorer l'équipe. Puis quand l'équipe va très bien, on suggère des transactions pour aller chercher la Coupe Stanley. C'est un marché qui réagit comme ça. Et là, on apprend aujourd'hui que Kent Hughes, par contre, serait peut-être en train de vérifier ses options quant à acquérir les services d'un bon centre, un deuxième centre pour son équipe. On parle beaucoup de Dylan Cousin à Buffalo. Il y a Casey Middlestad également, que son nom a été évoqué. Peu importe qui, ça mènera à Montréal. On peut comprendre que Kent Hughes cherche à aider son équipe parce que, justement, j'ai comme l'impression qu'un Jake Evans et Christian Dvorak ne seront pas de retour avec l'organisation l'an prochain. Donc, on aimerait peut-être régler le dossier pour la date limite des transactions. Tout ça pour vous dire que moi, je ne m'attendais pas nécessairement à un moment très mouvementé du côté du trade deadline qui va être au début du mois de mars. Là. Je ne m'attendais vraiment pas à une période achalandée chez le Canadien. Puis finalement, je pense qu'il va se passer quelque chose dans le dossier de Jake Evans parce qu'on a l'impression que le Canadien veut réagir à ça. Alors, ça va être intéressant. C'est un dossier qui va nous amener justement à échanger. Puis plus la date va s'approcher de la date butoir des échanges, plus la date va s'approcher, plus les discussions vont s'enflammer, puis plus les rumeurs vont circuler. Mais pour l'instant, de savoir que Kent Hughes a appelé, de savoir que Kent Hughes est en train de justement s'informer sur les prix,
ça veut dire
que le Canadien a peut-être intérêt à bouger.
Merci beaucoup, Olivier, pour tout ça. Puis bien sûr, on te souhaite un bon Super Bowl. J'imagine que tu seras scotché à ton écran dimanche.
Ah oui, il n'y a pas grand-chose qui va me faire bouger de là.
Avec des wings. Merci beaucoup.
Merci, bye-bye.